Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Curiosité. Nous sommes le vendredi 20 octobre, je suis Bilal et tout de suite je vous propose d'écouter les titres de cette émission. Tenez-vous au courant dans cette émission avec tout de suite un point d'actualité. Que s'est-il passé? Quelles sont les dernières informations? Vous le découvrirez dans cette édition. Si je vous parle de sorciers dans un monde fantastique, vous pensez tout de suite à Harry Potter, bien sûr. Il sera dans la chronique de Sacha. Alors combien de baguettes ont été utilisées pendant le tournage ou bien en quoi elles sont fascinantes? Réponse tout à l'heure. On le sait, trouver un logement à Nantes n'est jamais une partie de plaisir, souvent même franchement une galère pour les étudiants et les jeunes actifs. On en parlera avec la chronique de Gaël. Bonjour à vous.
Salut Bilal.
Une belle initiative que nous verrons également, celle de l'ouverture d'une librairie à Rezé dans les locaux de la gare de Pont-Rousseau. Avec détermination et ambition, vous allez le voir que tout est possible au reportage. À la fin de cette émission, ne manquez pas la chronique littéraire d'Alexis. De quel livre va-t-il nous parler? Pourquoi ce choix? Réponse à la fin de cette émission. Enfin, dans l'entretien de ce soir, Constance nous fera découvrir le tout nouveau festival des orientations féministes. Il aura lieu en novembre dans les environs de Châteaubriant, un festival de base de concerts, expo, projections, ciné-débats. On en parle dans quelques minutes avec nos invités. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonsoir.
Salut.
On commence tout de suite avec l'actualité du jour marquée par ces fausses alertes à la bombe qui se multiplient un peu partout dans le pays, dans les établissements scolaires ou encore dans les aéroports. L'aéroport de Nantes a par exemple été évacué hier matin pour la seule journée de jeudi. 75 alertes à la bombe ont eu lieu dans les établissements scolaires. 22 enquêtes ont déjà été ouvertes. Pour rappel, les auteurs ou autrices encourent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Une actu positive à présent, vous qui avez sans doute des enfants ou bien être des enfants, c'est un grand moment en cause, et ben c'est les vacances pour tout le monde. Profitez pour vous reposer, sortir avec vos amis ou bien nous écouter sur la radio, car oui, l'antenne n'est jamais en vacances. Et la phrase qui risque d'en fâcher plus d'un, je l'en connais, hein, n'attendez pas la dernière minute pour faire vos devoirs.
Curiosité. Pensez le futur.
Mais à présent, passons à nos invités de ce vendredi. Elles ont créé le Festival des orientations féministes et sont tout de suite au micro de Constance.
Eh bien oui, de chorale de femmes à Festival féministe sur tout un mois, il n'y a peut-être qu'un pas. En tous les cas, c'est ce que vont nous raconter nos invités du jour, puisqu'elles viennent nous parler du Festival des orientations féministes qu'elles ont participé à co-créer de toutes pièces et qui aura lieu tout le mois de novembre à Châteaubriant et dans les environs. Bonjour donc Myriam et Élise et merci d'être avec nous.
Merci.
Alors dites-nous d'abord tout simplement comment on passe d'une chorale de femmes, alors je ne sais pas si vous y participez en tant que telle, mais qui s'appelle Las Mariposas, à un festival féministe. Quel a été le déclic en fait?
Eh bien en fait c'était pendant une répétition, on s'est dit... Tiens, et si on organisait un festival féministe, en fait, tout simplement. Et je crois que tu étais là, Élise. Non, tu n'as pas de souvenir de ça.
Non,
mais en tout cas, oui, toutes les deux ont fait ou avons fait partie de la chorale féministe. Et en fait, du fait de nos sensibilités féministes, on avait envie de créer un événement sur ces thématiques.
Et ça, c'était il y a un an, il y a plus et longtemps.
C'était un peu plus d'un an.
Okay.
Mais on a commencé à travailler dessus il y a un an.
Ça marche. Mmh. Alors, festival féministe, ça peut vouloir dire pas mal de choses différentes. Est-ce que vous avez réussi à définir une vision un peu commune du féminisme, ou finalement, est-ce que c'était pas forcément nécessaire puisque c'est des orientations féministes? Mmh.
Et ben en fait, dans notre groupe, qui n'est pas forcément homogène, on a des visions différentes de chacune à son féminisme. Donc, on a eu besoin de beaucoup discuter, beaucoup aller se chercher dans nos opinions, nos convictions, nos manières de voir les choses. Et on s'est retrouvés quand même autour d'un socle, celui du féminisme intersectionnel.
Que vous pouvez expliquer peut-être pour nos auditeurs et auditrices. Alors oui, c'est peut-être pas une question très simple, mais comment vous l'entendez-vous peut-être, ou juste qui est écrit dans votre programme, puisque je crois que vous l'avez défini d'ailleurs dans votre programme.
Intersection. En fait, alors comment expliquer de manière assez concise. Le féminisme intersectionnel ne se contente pas de prendre la condition des femmes en patriarcat comme
référence universelle, peut-être.
Voilà, merci. Ouais. Voilà, et prend donc en compte d'autres oppressions subies. Ça peut être les questions de race, les questions de classe, les questions de genre.
L'orientation sexuelle, l'orientation les questions sexuelle. Autour du validisme ou de l'agisme. Donc en fait, oui, dans le mot intersectionnel, on entend l'intersection. Et donc, on va considérer les intersections dans les rapports d'oppression ou de domination. Et donc, prendre en compte les oppressions systémiques qui s'entrecroisent et qui s'entremêlent pour chacune dans le quotidien et du coup dans les entraves au quotidien, quoi.
Alors, la programmation, alors, elle est très riche, hein, concerts, spectacles, ateliers, ciné, émissions de radio, expo. Est-ce que peut-être vous pourriez nous parler d'un événement en particulier, soit dont vous êtes particulièrement fier, ou que vous voulez mettre en avant ou expliquer à nos auditeurs, auditrices, pour leur donner un avant-goût?
Moi, je fais partie de l'équipe qui va proposer une formation le 25 novembre. Donc, je fais partie de l'association La Scie Gouine, qui est partenaire du festival. Et donc, à La Scie Gouine, nous, on fait depuis plusieurs années des formations à destination des professionnels de la santé, du social et de l'éducation.
Vous travaillez ensemble, du coup, oui.
Cette association, donc, elle propose des formations pour ces professionnels-là, pour les aider à réfléchir à leur posture d'accueil et d'accompagnement des personnes LGBTI. Donc nous, en fait, on participe à ce festival sous la forme, en fait, d'une journée d'atelier à destination du grand public cette fois. Donc, normalement, on est avec des professionnels de la santé, du social et de l'éducation. Là, c'est spécifique, c'est plutôt pour le grand public. Mais on va proposer à ces personnes de réfléchir à comment ça s'articule les spécificités dans le vécu et dans les besoins des personnes LGBTI au quotidien, et les aider à réfléchir à leur potentiellement à leur posture d'allié pour ces personnes.
Donc ça, c'est l'événement du 25 novembre, ouais, de 9h à 17h à Châteaubriant, justement.
Voilà, c'est ça.
Vous vouliez aussi nous...
Moi, je peux parler de l'initiation à l'autodéfense féministe, parce que c'est moi qui anime cette initiation. Je peux peut-être te dire ce que c'est.
Oui, on s'en prie, oui.
c'est des temps pendant lesquels les personnes qui participent, donc les participantes, ensemble, on va voir des techniques de défense, d'autodéfense physique, simple et accessible, de l'autodéfense verbale. On va balayer des questions sur la thématique des préjugés, de quels sont les moments où on se prépare à se défendre, alors que globalement, en fait, les violences faites aux femmes majoritairement sont vécues dans des lieux qu'on connaît par des personnes qu'on connaît. Donc en fait, l'autodéfense féministe, c'est une pratique de prévention primaire, centrée sur l'autonomie et le choix des personne. Ça permet d'augmenter la confiance en soi, de faire tomber le sentiment de vulnérabilité et de culpabilité face aux violences subies. Ça permet d'identifier et de valoriser ses limites et de les imposer aux autres.
Et pour l'autodéfense. Ça, c'est le 18 novembre de 16h à 18h à la Maison des Associations à Saint-Aubin-des-Châteaux fois. On vient d'en parler, donc pas mal de choses autour de la sexualité, des luttes antisexistes, des violences sexistes et sexuelles. Est-ce que finalement il y avait un cahier des charges pour faire partie de ce festival? Enfin, qu'est-ce qui a guidé un peu votre programmation?
Um... Alors, au départ, en fait, c'est parti par... En fait, on est un groupe et chacune a déjà entendu parler d'un spectacle ou connaît tel type d'atelier ou pouvait proposer tel ou tel type de, d'événement ou d'atelier. Et les décisions ont été difficiles à prendre. On nécessitait beaucoup d'échanges. Le filtre, c'était l'intersectionnalité et l'inclusion. Voilà.
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, justement, dans le process d'émergence de ce projet, c'est que, en fait, ça a mis autour de la table tout un ensemble de personnes sur un petit territoire, des personnes qui se retrouvaient dans le mot de féminisme. Et en fait, c'était un point de départ en commun. Et en même temps, ça a obligé ces personnes à définir ce qu'elles mettaient derrière ce mot et à se rendre compte aussi des différences qu'il y avait, parce qu'il n'y a pas un féminisme, il y en a plein. Et il y a des sujets clivants aussi dans le féminisme. Et du coup, c'était intéressant justement de voir ce groupe à l'œuvre pour définir des choses et pour affiner ses perceptions sur différentes thématiques qui sont potentiellement clivantes. Et du coup, ça a fait aussi de l'élagage dans les propositions qui étaient foisonnantes au début et qui étaient très, très variées. Et ça a permis aussi de donner des directions et de se dire, en fait, ça, on ne va peut-être pas le conserver parce que peut-être ça nous heurte sur certains aspects. Et puis ça, par contre, on a très envie de le porter haut et fort. Donc, par exemple, dans la programmation, on peut quand même mettre en avant le fait que, par exemple, il y a les Pétrolettes qui sont invitées. Donc, c'est une association communautaire avec et pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Donc ça, c'était quelque chose de très important pour nous. Je vais revenir aussi sur la question de visibiliser les vécus des personnes LGBTI. Le féminisme, dans ce qu'on en entend, nous en tout cas, ça ne concerne pas uniquement les femmes. Ça concerne toutes les personnes qui sont en fait mises au banc ou qui vivent des oppressions de genre. Et donc, ça concerne aussi des personnes LGBTI. Donc, ça faisait partie un peu des partis pris de l'équipe du festival que de donner à voir un féminisme qui soit assumément intersectionnel.
Pause musicale avec tout de suite Trust Nobody de Ama Lou sur le 92 FM.
If you find out, then please give it to yourself. I can't find no peace unless someone else is here. See, I don't trust nobody. See, I say when I bleed, but you don't care about my health. Oh no, this ain't the shit that I need when I plan to move stealth. So I don't trust nobody. You see all the bodies in, I see why I gotta move like this, groove like this. I really be about this shit, so solid. You thought I was exaggerating, be honest, yeah. You had just left me alone, and then I try to command. It's just so grand, you don't understand. I know I don't mind space, so if you care about saving face, I just can't fuck on that basis, no. If you find out, then please give it to yourself. I can't find no peace unless someone else in here. See, I don't trust nobody. See, say when I plead, but you don't get by my head. Oh no. This shit ain't that deep, I'm just trying to move stealth. So I don't trust nobody. Don't know what to tell you, sis, but I won't speak on your talents. Just pretend lately, what about your common sense? Raise another way, maybe if it's said like this, consider revising. Yeah, just left me alone and then I try to command. It's just so off-brand, you don't understand. I know I don't mind space if you don't care about saving face. I just can't fuck on that basis, no. If you find out, then please give it to yourself, to yourself. I can't find no peace unless someone else is here. See, I don't trust nobody. You see, I say what I believe, but you don't care about my health. This ain't the shit that I need when I try to move stealth.
still, I don't trust nobody. If you solidified, then I would raise the ground. You walk on to another path that I was kidding when you know I don't fuck around. Oh, I still wish you the best, but we just don't blend in the same way you found me. I receive your message, don't appreciate your method, so you can stop bounding. If you find out, then please give it to yourself, to yourself. Just give it to yourself. I can't find no peace when there's someone else in here. See, I don't trust nobody. See, say when I plead, but you don't get by my hand. Shit ain't that deep, I'm just trying to move stealth. So I don't trust nobody.
Toujours dans Curiosité sur Prune 92 FM et toujours avec Myriam et Élise qui ont participé à créer le festival des orientations féministes. Ce sera le mois prochain à Châteaubriant et dans les environs. Alors ben justement, en termes de localisation, Châteaubriant et les environs, on est dans un territoire plutôt rural. Est-ce que ça a un impact sur à la fois la façon dont le festival s'est organisé, sur son contenu, etc. Suspense.
Je commence. Okay.
Donc Myriam.
Je peux dire que il y a eu des choix en fait de valoriser des personnes vivant sur le territoire et aussi en fait dans la manière de proposer le calendrier, en fait d'étaler les propositions sur un mois, fait que c'est ça aide à ce que ça soit accessible et destiné aux personnes vivant sur le territoire. Un festival, on s'est posé la question d'un festival sur deux jours qui pouvait faire venir du monde, qui pouvait s'installer pendant deux jours à Châteaubriant le choix aussi du calendrier était un choix pour favoriser que ce soit accessible en fait aux personnes habitant sur le territoire.
On le sait aussi que il y a beaucoup de propositions en ville et que de propositions militantes en général, mais féministes aussi beaucoup. Et en fait, c'est vrai que nous, on est entre deux grosses villes, entre Nantes et Rennes. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent sur ce territoire-là. Et c'était important aussi de pouvoir montrer que, en fait, il se passe pas que des trucs dans les grandes villes et que il y a des réseaux qui s'intéressent à ces questions-là en ruralité. Aussi parce qu'en fait, le féminisme en ruralité et les conditions des personnes qui subissent le patriarcat en ruralité, c'est pas du tout les mêmes enjeux qu'en milieu urbain. Voilà, notamment, je sais pas, on peut citer plein de choses, mais les LGBTI-phobies, les violences faites aux femmes. Enfin, il y a 30% de la population française qui vit dans les milieux ruraux, mais ça représente plus de 50% des violences faites aux femmes. Donc en fait, il y a des enjeux de ruralité qui sont à prendre en compte et qui ne sont pas les mêmes qu'en milieu urbain, par exemple. Et donc nous, ce festival, on sait qu'il y a des copaines qui vont venir des grandes villes, mais c'est un festival qui a été dessiné pour les gens du territoire. Et ce n'est pas des gens hors sol ou des gens de la grande ville qui viennent raconter la réalité de Châteaubriant. C'est des gens de Châteaubriant qui font ça par eux-mêmes et pour Châteaubriant.
Alors, vous parlez aussi de radio dans ce programme, et comme à Prune, forcément, c'est de la radio, est-ce que vous auriez quelques infos à nous donner sur cette partie audio, peut-être, ou ce que vous voulez ?
Eh bien, c'est les détricoteuses de JetFM qui viennent qui délocalisent une de leurs émissions. Elles font une émission par mois, là, ça sera celle du mois de novembre. Elles proposent un mot à décortiquer, détricoter à des contributrices, pas forcément des personnes qui font de la radio. Et ces personnes, les contributrices, font des créations de 7 minutes autour d'un mot. Cette fois, c'est tempête. Et à partir du mot, elles tirent des fils pour aller sur des questions féministes.
Le mot tempête.
Le mot tempête. Okay.
Trop bien. Alors, vous le saviez ou pas, cette interview du vendredi s'appelle à la base Penser le futur. Et donc, je me demandais, est-ce que vous pensez que ce genre d'événement, ça permet de penser, de réfléchir, d'imaginer un futur, entre guillemets, plus désirable, même si j'aime pas trop le terme, j'ai pas trouvé mieux, ou être déjà dans le présent, bah, c'est peut-être déjà pas mal.
Il y a du taf dans le présent. Il y a vachement de taf dans le présent. La question. après, en effet, oui, ça donne. Je pense le fait d'imaginer des futurs différents, et des futurs dans lesquels on peut se sentir plus à l'aise que dans le présent, ça donne des élans pour les actions dans le présent. Donc,
c'est ce qui nous donne envie d'agir.
C'est ça. Mmh. C'est ça qui est moteur, quoi. Donc oui, enfin, je pense que à l'équipe du festival, on peut dire qu'on a une vision de l'avenir qui serait anti-patriarcale et anti-raciste et enfin voilà, qui serait
sans oppression.
Ouais, ce serait trop bien, on serait tous des bisounours.
Oui. Alors, on lit aussi d'ailleurs à propos de anti-capitaliste dans votre programme à certains moments. Et vous disiez, enfin, vous expliquiez à un moment qu'en même temps, vous aviez quand même dû faire appel à des subventions, du mécénat, etc. Notamment pour proposer des tarifs abordables, accessibles à toutes et tous. J'imagine que c'était un choix un peu compliqué. C'est aussi un choix qui interroge pas mal de festivals qui se créent notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ?
Ouais, c'est un choix qui a été discuté. Et on s'est rangé de l'avis de celles qui préféraient quand même demander des sous, aller chercher des sous pour pouvoir en fait payer les artistes et reconnaître leur travail, puisque la reconnaissance d'un travail passe par le salaire. Et en sachant que malgré l'argent récolté, on a dû négocier et les artistes ont accepté de participer en deçà des prix qu'elles demandent habituellement.
Je crois que ouais, l'enjeu financier, c'est un gros enjeu, parce qu'en fait, il faut prendre en compte le fait que Châteaubriant, c'est un territoire où il n'y a pas beaucoup de fric. On n'est pas dans les grosses villes. Et si on fait un festival qui est inaccessible économiquement à des personnes du territoire, ça n'a aucun sens. Donc il y avait vraiment l'envie que les propositions elles soient accessibles. Et puis, comme tu disais, ouais, pour pouvoir reconnaître le travail des personnes qui proposent qui interviennent sur le festival, c'était important. Après, c'est pas la même chose, enfin selon moi, d'aller demander de l'argent au département ou d'aller demander de l'argent à une banque. Et je pense que autant on n'a pas trop de cas de conscience avec le département, parce que on sait que voilà, c'est plutôt ok, quoi. Après, ça nous a pas fait la même d'aller demander de l'argent à la banque, et ça on n'était pas toutes d'accord.
Et quelle est, vous, votre vision du futur de façon plus générale ?
Waouh, c'est chaud, non ? C'est chaud comme question.
Deux heures.
Concrètement, brièvement, quoi, du coup ? Les grands axes.
Ça peut être en lien avec le festival, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il en sorte, peut-être, ou juste que les gens... peut-être ça va attirer des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées à des questions féministes, justement. Qu'est-ce que vous en attendez ou qu'est-ce que vous espérez ?
Ce qu'on en attend, c'est de faire des rencontres, c'est de se rendre compte qu'on est, enfin, je l'espère, qu'on est nombreuses et nombreux. Je ne sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, oui, les rencontres, c'est essentiel. Et puis, pour un futur plus éloigné, peut-être une deuxième édition.
Donc il y a un futur pour le festival aussi, peut-être.
Ouais,
une partie 2, peut-être.
On l'espère, ouais.
Bon, pour déjà que la partie 1 se déroule, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
merci beaucoup, Myriam et Elise, d'être venues nous parler de l'inspirant festival des orientations féministes. Donc c'est du 2 au 26 novembre à Châteaubriant et dans les environs. Il y a plein de dates, plein de lieux, plein de choses différentes à découvrir. C'est donc à prix libre.
Oui,
la plupart, ça dépend un petit peu des événements. Ouais. Courez voir le programme, c'est sur pas mal de réseaux maintenant.
Oui, Facebook, Instagram, les trucs comme ça, quoi.
Ouais.
Et puis, sinon, allez-y, tout simplement. Voilà, merci beaucoup.
Merci, Constance. Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup à nos invités et à Constance pour cette interview. On revient tout de suite pour parler, mais en attendant, on écoute Dexa partir de Pongo.
tantas vezes esperei as madrugadas e eu liguei sem retorno, sem chorei. O que se passa eu não sei, eu não sei. Tem magias que são assim, jogam bué tipo Messi. Vou seguir sem subir, o que eu quero é ser feliz.
C'est à présent l'heure de la chronique de Gaël qui se dit d'être un néo-nao. C'est intriguant, je le confirme, mais qu'est-ce donc ? On le verra après le jingle.
Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
Alors Gaël, dites-nous tout. Qu'est-ce donc un néo-nao ?
Alors néo-nao, c'est un nom que j'ai inventé. J'aime bien inventer des mots. Donc néo, c'est comme dans néo-ruraux, donc nouveau. Et Nao, pour moi, c'est Nantes, donc Naoned en breton. Donc Néo Nao, c'est un nouveau Nantais, ce que je suis.
En clair. En tout cas, ce soir, vous allez nous parler de la rencontre avec notre ville de Nantes. Première question, alors vous êtes nouveau dans la ville, donc comment avez-vous fait pour trouver votre logement, sachant que c'est une vraie galère ?
Ben, le meilleur moyen, c'est donc de chercher un logement. Comme ça, j'ai pu découvrir un peu sur le tard les différents quartiers et surtout les lieux incontournables qui ne manquent pas d'exotisme. Donc j'ai été charmé par les différentes îles, l'île de Nantes, l'île de Versailles et aussi bien sûr l'île Feydeau.
Et il me semble que vous vous êtes aidé de deux outils, dites-nous tout.
Oui, pour entamer une telle quête, il faut être bien outillé. Donc j'ai bien sûr utilisé Le Bon Coin que tout le monde connaît et aussi la carte des colocs qui était un site spécialisé pour la recherche de logements qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus sympathique que Le Bon Coin. Donc il y a des offres très alléchantes, par exemple de loyer à 1 euro, moyennant des services très douteux, réservés bizarrement aux étudiantes. Il y a aussi des annonces où les rares photos sont souvent floues et elles laissent à peine distinguer ce qui doit être un salon en désordre et un chat. Mais rien de la chambre concernée. À l'autre extrême, il y a bien sûr les colocations entre guillemets de luxe, proposées directement par les propriétaires, entièrement meublées et décorées par leurs soins. Mais il n'y a pas vraiment d'âme. Là, les chambres ont toujours un lit king size, les draps et le linge de bain fournis, plus un énorme écran plat avec abonnement Netflix dans le salon. Il ne reste plus qu'à, je cite, poser nos valises. il y aurait en plus une manucure incluse tous les mois, que ça ne m'étonnerait pas. Mais aucun mot sur les potentiels au pluriel et masculin et féminin colocataires, comme si le matériel était le plus important et non l'humain.
Il reste tout de même les annonces de colocation à l'ancienne avec le bon vieux papier et le stylo.
Oui, bien sûr, ou alors les colocations normales, où c'est les colocataires qui rédigent l'annonce, qui vont se présenter et qui vont même suggérer de se voir et de discuter autour d'un moment convivial, mais vraiment ce n'est pas pléthore. Et souvent, avec ces annonces-là, l'estime de soi en prend un sacré coup, car on tombe toujours sur les champions du monde de toutes catégories de la bienveillance, du véganisme, du zéro déchet et de toute autre activité culturelle, artistique ou militante. Bon, à la finale, j'ai quand même trouvé... J'ai aussi bien aimé les annonces dites urgentes, qui ne laissent ni le numéro de téléphone, ni adresse email pour les contacter, et qui vont te faire porter des plombes pour au final ne pas donner de réponse. Bon, au final, j'ai quand même trouvé quelque chose par défaut, mais je ne savais pas qu'à Nantes, dans certains immeubles, la colocation est surtout avec les voisins d'en dessous, d'en dessus, même ceux de droite et ceux de gauche, tant l'insonorisation est mauvaise. Bref, j'ai tellement apprécié l'expérience que je repars en recherche de colocation cette année, mais cette fois-ci, je n'accepterai que les colocations à 1 euro le loyer avec un chat et la manucure mensuelle.
Et les mots de la fin pour finir ?
Oui, ben voilà, pour moi c'est tout. Je vais juste dire adieu, donc qui est au revoir en occitan, ma région d'origine, et guelpewel, au plaisir, en breton. Voilà, à plus tard.
Merci Gaël pour cette rubrique très drôle en ces temps un peu durs.
La pause cadeau.
Ce soir, Point te fait gagner 2 places pour le festival Les Nuits Courtes du vendredi 27 au dimanche 29 octobre, qui aura lieu à l'espace culturel René Cassin à Fontenay-le-Comte. Pour sa 6e édition, Les Nuits Courtes ont vu des choses en grand et annoncent 3 nuits de folie pendant les vacances de la Toussaint, avec une recette qu'elle connaît bien, du rock et de la chanson avec Isia, Pomme ou encore Julien Granel, du hip-hop avec PLK, Zola ou encore Bécard, et un spectre large de musique électronique avec Vladimir Cauchemar, Mandragora, Wax Taylor et plein d'autres encore. Alors pour avoir la chance de gagner ces 2 places, envoie-nous un emoji dansant sur l'Instagram de Prune. Et on se laisse avec la suite de l'émission. Et tout de suite, le morceau RIP, né de la collaboration entre 2 DJ francophones, Vladimir Cauchemar et Apache. Bonne écoute. Thank you.
De retour sur Prune, c'était Rip de Apache et Vladimir Cauchemar. Et on enchaîne tout de suite avec la chronique. Exceptionnellement aujourd'hui, nous recevons un stagiaire de 3e et il va nous faire une chronique. Donc, c'est Sacha, bonjour à toi.
Bonjour Bilal, bonjour à tous.
Tu vas nous parler de Harry Potter, le fameux sorcier très très connu du grand public.
Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
Si vous tendez l'oreille, vous entendrez le passé murmurer.
Alors Sacha, tu as des informations à nous dire par rapport à l'actualité d'Harry Potter. Dites-nous tout.
Eh bien, vous en avez marre d'Harry Potter, eh bien, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Comme vous l'avez sans doute entendu ou vu sur les réseaux sociaux, hein, il y a plusieurs actus vis-à-vis de l'univers d'Harry Potter. Alors pour commencer, je vous annonce la triste mort de Michael Gambon, l'acteur britannique qui en va endosser le rôle de Dumbledore, notre cher directeur de Poudlard, à partir du 3e film jusqu'à la fin de la saga. Par ailleurs, la chaîne de télé française TF1 a décidé de rediffuser les Harry Potter. Alors retenez bien ces dates. Le 24 octobre à 21h10, Harry Potter à l'école des sorciers. Le 31 octobre, le soir d'Halloween, toujours à 21h10, Harry Potter et la chambre des secrets. Et pour finir, le 7 novembre également à 21h10, le troisième opus de la saga Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
Et tu as l'air de plutôt bien t'y connaître en sorcier en fait.
Alors effectivement, alors moi j'ai commencé à lire les Harry Potter quand j'étais en CP, mais au début j'ai pas forcément accroché lorsqu'une amie à moi, donc voilà Milena si tu passes par là, m'a dit d'aller voir le premier film, bah j'ai dit bah pourquoi pas. Hein. Donc j'ai regardé le premier, et là j'ai tout de suite été conquis par les effets spéciaux et le monde si spécial, hein, qu'est le monde des sorciers de J.K. Rowling. Peu après, je me suis donc mis à enchaîner la lecture des livres et le visionnage des films, hein, puis étape suivante à collectionner des objets, hein, des baguettes par exemple. J'en possède actuellement une quinzaine, ce qui est quand même un bon chiffre. Avec la sortie du premier opus des Animaux Fantastiques en 2016, le 2 en 2018 et enfin le 3 en 2022, mon affection pour le monde de J.K. Rowling n'a fait qu'augmenter. Bref, entre ma passion pour les baguettes plus les actus autour d'Harry Potter, bah cela me donne envie de vous en dire plus sur les fameuses baguettes du film, hein. De quoi vous rafraîchir la mémoire et de vous donner envie de re-regarder les films de notre cher petit sorcier.
Alors on parle de baguettes, encore de baguettes, mais en quoi sont-ils si fascinantes?
Eh bien en fait, les baguettes d'Harry Potter, ce sont des morceaux de bois, renfermant des sortes d'artefacts magiques leur permettant d'envoyer des sortilèges, hein, pour se défendre, attaquer ou tout simplement pour exécuter les tâches de notre quotidien. Dans les films Harry Potter, il existe plus d'une cinquantaine de baguettes différentes. Alors les baguettes utilisées pour les films, elles sont en résine avec à l'intérieur une tige de fer pour la solidifier. Mais pour certaines scènes, hein, les baguettes étaient en bois, hein, pour par exemple les scènes où les baguettes se cassent ou se fissurent. Les baguettes que nous retrouvons en vente sur internet ou dans les boutiques Harry Potter, elles sont faites en résine, hein, et sont moulées dans des moules, dans les mêmes moules qui ont servi à la réalisation des baguettes utilisées pour les films. Hein. Donc si vous achetez une baguette officielle, vous aurez la copie conforme des baguettes utilisées par les acteurs lors du tournage des films. Pour les baguettes des Animaux Fantastiques, le même procédé de fabrication est utilisé, hein, de la résine dans un moule avec une tige de métal en son milieu. Hein. Au total, il existe une trentaine de baguettes différentes des Animaux Fantastiques 1, 2 et 3. Comme pour les baguettes des films Harry Potter, hein, certaines baguettes sont en bois pour les besoins de la scène. Vous avez sans doute remarqué ou pas que les baguettes des Mangemorts, les serviteurs de Voldemort, hein, le seigneur des ténèbres de Harry Potter, sont ornées tantôt d'un crâne, tantôt d'un serpent. Car les accessoiristes des films Harry Potter et des Animaux Fantastiques ont essayé de rendre les baguettes des méchants plus sombres, hein, plus inquiétantes. Ce qui renforce donc le côté ténébreux des films et des romans de J.K. Rowling.
Ça doit en faire un sacré nombre de baguettes au total.
Eh bah tout à fait. En moyenne, les acteurs et actrices des films Harry Potter ont eu besoin de 6 baguettes lors des tournages des 8 films. Mais Daniel Radcliffe, l'acteur d'Harry Potter, a utilisé pas moins de 80 baguettes magiques, hein, durant les 10 années de tournage de la saga. Alors attention, petit disclaimer, les baguettes c'est pas donné. Hein. Comptez en moyenne une vingtaine d'euros pour les moins chers, jusqu'à 40 voire 45 euros pour les plus chers. Hein. Mais rassurez-vous, il existe des centaines de tutos, hein, sur YouTube, Instagram ou TikTok qui vous indiquent comment créer votre propre baguette ou encore comment de reproduire le plus fidèlement possible celle des films. Prenons un exemple très simple, le journal Le Parisien a lui-même sorti il y a 2 jours un article indiquant comment fabriquer votre baguette Harry Potter. Alors, est-ce que toutes ces informations vous ont donné envie de revoir les films?
J'en suis sûr, ça a envie de rester sur son canapé à les dévorer encore une fois. Merci encore à toi, Sacha, pour cette chronique passionnante. Tout de suite, autre chose maintenant, avec une initiative locale à présent, celle de l'ouverture d'une librairie dans les locaux de la gare de Pont-Rousseau à Rezé, une initiative prise du programme de la SNCF, Mille et une gares, c'est son nom. Cette dernière a pour but de donner une nouvelle vie dans les petites gares de France, avec notamment l'installation de cafés fleuris entre autres. Depuis le lancement, ce n'est pas moins de centaines de gares qui ont pu en bénéficier. Reportage signé Maude Lorgeret.
Curiosité reportage. Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Redonner vie aux petites gares en y implantant des commerces ou des tiers-lieux, c'est l'objectif du programme Mille et une gares, lancé par la SNCF en 2019 et rebaptisé Place de la Gare. Depuis, des centaines de bâtiments en partie vides se sont réinventés avec l'implantation de cafés, fleuristes, espaces de coworking ou même des crèches. Mais il n'y avait encore pas eu de librairie indépendante. C'est désormais chose faite à Rezé, en Loire-Atlantique, où vient d'être inaugurée la petite gare de Pont-Rousseau. Nous y avons retrouvé la Rezéenne Juliette Munier.
On était trois amis à avoir pris connaissance un petit peu par hasard de l'appel à projet il y a 2 ans et demi. Et en fait, cet appel à projet, il est arrivé à un moment où chacune de notre côté, on réfléchissait un petit peu au sens qu'on voulait donner à nos vies professionnelles. À un moment où le Covid était vraiment marqué par la peur de l'autre. Et on avait envie de retisser un peu du lien dans nos vies, dans notre ville, dans notre quartier. Et puis de voilà, reprendre un petit peu, reprendre un petit peu notre place sur ce territoire. On s'est dit que c'était une aventure à tenter.
La Petite Gare, c'est donc un projet collectif mu par l'envie de redynamiser une ville et un lieu emblématique du territoire.
C'est vrai qu'on s'est aussi lancé dans l'aventure parce qu'on était habitante de ce quartier. Et donc, il y avait aussi un sentiment d'appropriation très fort par rapport à ce bâtiment qui est vraiment un point d'ancrage dans le quartier puisque tout se transforme autour de nous. Et cette gare, elle ne bouge pas. Elle a une histoire très riche. Et du coup, c'était l'occasion vraiment de lui donner une nouvelle vie. Cette gare, elle a 150 ans bientôt, elle est encore en activité, elle relie Nantes à la mer. En fait, tout ça, c'était un peu une invitation au voyage et on s'est laissé tenter un peu par cette utopie.
Une utopie qui a d'abord pris la forme d'un long parcours administratif avec le dépôt d'un dossier de candidature auprès des équipes du réseau SNCF Gare et Connexion.
Il y a eu 20 projets qui ont été présentés, retenus en tout cas par les équipes de la SNCF. Il a fallu qu'on passe ces deux jurys et qu'on explique un peu notre ambition et la solidité de notre modèle aussi, notre projet sur le plan économique. Ça, c'était un point important parce qu'il s'agissait aussi de créer un projet pérenne pour ce lieu. Et la particularité aussi de notre proposition, c'était qu'on n'envisageait pas seulement de créer un commerce ou un espace de travail pour quelques personnes qui en auraient besoin ici. C'était vraiment un projet qu'on a très vite ouvert sur les habitants du quartier, sur le confluent qui est juste à côté, sur toutes les parties prenantes qui font la vie de ce quartier. Nous, on était des graines d'entrepreneuses, si je puis dire. On partait de zéro, donc on allait rencontrer des libraires. Pour comprendre un petit peu le modèle économique, on a été rencontrer, visiter des espaces de travail partagés aussi. Puis on a été chercher tout un tas d'accompagnements, d'aides, de conseils, de compétences qui nous ont aidés. On était trois à porter un peu le projet à l'origine, mais on a aussi eu plein de coups de main de personnes qui, je crois, avaient envie aussi de s'approprier un petit peu ce projet.
Autre étape essentielle du projet, la phase de travaux et la question cruciale des financements.
Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a une partie des travaux qui sont financés par la SNCF dans le cadre des travaux propriétaires, en fait. Donc, tout ce qui est la coque. Donc, tous les travaux de gros œuvres ont été réalisés par la SNCF, mais aussi les travaux d'accessibilité. Et puis après, il y a une autre phase qui est plus liée à l'aménagement et aux finitions du projet. Et là, la librairie, pour sa part, a investi dans l'ameublement. Et à l'étage, nous, association, le collectif La Voix est libre, qui a été créé pour cet espace de travail et de rencontre à l'étage, a aussi été chercher des financements pour aménager cet espace.
La petite gare de Pont-Rousseau, c'est donc aujourd'hui une librairie indépendante au rez-de-chaussée, un tiers-lieu dédié au métier de l'écriture et de la culture à l'étage, mais aussi un espace pour les deux agents SNCF, toujours en charge de l'activité ferroviaire. Un lieu de vie inauguré mi-septembre et qui semble déjà répondre à un vrai besoin des habitants.
Pour nous, c'était un moment assez magique. C'était un moment un peu charnière parce que ça marquait 2 ans et demi de travail en coulisses et en équipe restreinte autour de ce projet. Donc on avait hâte de le voir vivre avec les habitants. Ça nous encourage beaucoup et ça nous laisse penser que plein de choses sont possibles dans le bâtiment, mais aussi à l'extérieur sur ce parvis qui n'avait jamais vraiment été investi. Et donc là, c'était un peu une fête de village, une fête de quartier. Et on a du coup pas mal d'envie pour la suite.
En Pays de la Loire, d'autres gares sont actuellement concernées par ces projets de réaménagement, notamment à La Roche-sur-Yon, Sainte-Pazanne, Chalonne ou Clisson. C'était un reportage de Maud Lorgeret pour Sun et Pensée Locale.
C'était Pensée Locale, un enjeu de société.
Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
C'était le DJ Black Coffee qui a créé ce morceau. Je remercie tout particulièrement, Virginie. Elle se reconnaîtra pour ce son qui lui est dédié. C'est l'heure de votre chronique littéraire à livre qu'a choisi Alexis. Bonsoir Alexis.
Bonsoir.
Ce livre s'appelle Buffy ou la révolte à coups de pieu, un essai de Marion Olité sur la série Buffy contre les vampires, du point de vue de l'émancipation féminine, édité chez Playlist Society.
Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
C'est à vous, Alexis.
Et oui, merci beaucoup. Et je vais commencer par tous vous faire vous sentir très jeune dans ce studio, puisque cette année, là, en septembre, enfin octobre, là, pour cette rentrée, je fête mes 20 ans de radio. à la radio Prune.
Joyeux anniversaire.
Et donc, je suis très content de continuer et que cette radio continue à accueillir même les vieux grabataires tels que moi. Et je continue cette année, donc pour une troisième année, cette chronique littéraire qui sera à peu près hebdomadaire, à peu près. J'aurai l'occasion donc de vous parler de livres que j'ai lus très récemment, des livres qui sont sortis également récemment. Et c'est le cas du livre de ce soir, donc qui s'appelle Buffy ou La révolte à coups de pieux, comme vous le disiez, écrit par Marion Olité, qui est en fait journaliste culture pour les magazines Têtu, Mademoiselle et Elle. Elle s'intéresse en particulier à la représentation de l'adolescence, de la condition féminine, de la communauté LGBT, sur les écrans, petits ou grands. Et donc, elle s'intéresse pour ce livre édité là, chez Playlist Society, dont j'ai déjà pas mal parlé les années précédentes, à la série Buffy contre les vampires, qui avait été diffusée en France entre 1997 et 2003. Une série à côté de laquelle j'étais largement passé. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'avait pas intéressé à cette époque-là. Et beaucoup de mes amis m'en parlent régulièrement, oui, régulièrement. Je me suis dit que peut-être lire ce livre, ça me donnerait des clés pour mieux comprendre l'intérêt autour de cette série. Et je dois dire que c'est à peu près le cas. C'est même tout à fait le cas. Ce qui est intéressant, donc, c'est l'angle choisi par Marion Olité dans ce livre. On est donc dans un essai qui va analyser cette série au fil des saisons, un peu les spin-offs aussi, parce qu'il y a eu la série Angel. Analyser cette série sous l'angle du féminisme. Et il y a un travail, elle fait un vrai travail d'équilibriste, parce que, après tout, cette série n'est pas 100% féministe, elle est, mais il y a des grands moments en fait très féministes qui étaient sinon en avance sur leur temps, au moins en plein milieu de l'écran, et c'est ça qu'on peut pas retirer à cette série. Mais il faut bien le rappeler quand même, cette série va dispenser par petite touche, on va dire, parfois de plus en plus visiblement dans l'évolution de la saison, ce féminisme, cette émancipation féminine avec le personnage très central de Buffy, évidemment. Actuellement, donc avec le recul, il y a aussi quand même pas mal de problèmes, on dirait même problématiques, comme série aujourd'hui, très notamment parce que son showrunner et son créateur, c'est Joss Whedon, qui est un réalisateur qui est ensuite passé au cinéma, puisque c'est lui qui a fait les deux premiers films Avengers. Il a fait également la Cabane dans les bois. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui assez largement accusé de comportement abusif, sans être forcément dans l'agression, mais au moins juste de quelqu'un qui était un gros lourd qu'il faisait bien savoir et qui avait un comportement plutôt toxique sur les tournages, notamment envers les femmes. Donc, ça fait mettre tout ça en perspective. Cette émancipation féminine était sûrement aussi un petit peu de bon ton peut-être dans cette série. Cela dit, pour beaucoup d'adolescents et d'adolescentes à cette époque-là, c'était un premier passage justement vers ce type de représentation, et donc c'est très bien. J'ai appris beaucoup de choses sur la série. Je crois que malgré tout, je vais pas me mettre à regarder les 7 saisons.
Ça fait beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup. J'ai beaucoup de films à regarder, donc ça fait beaucoup, beaucoup de trucs. Mais au moins, je comprends et maintenant je suis en mesure d'en parler avec mes amis qui m'en parlent si souvent. Donc ça s'appelle Buffy ou la révolte à coups de pieux et c'est édité chez Playlist Society, c'est déjà disponible et c'est écrit par Marion Olité.
Je vous remercie. Merci Alexis pour cette passionnante chronique. Avant de clore cette édition, un petit point météo de ce week-end qui, pour une fois, est digne d'un mois d'octobre. Samedi avec 11 degrés le matin et un pic de 17 degrés en après-midi. Et cette tendance se répétera dimanche avec le 9 degrés le matin et 19 l'après-midi. Météo France annonce également de la pluie pour ce week-end. Des rafales de vent sont tout de même à noter. Un temps à rester à la maison pour nous écouter sur le 92 FM. C'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité. Je remercie tout particulièrement mes proches qui ont été au rendez-vous pour cette première d'une longue série, je l'espère. Tout de suite sur Prune, ne manquez pas le Planétarium à 18h. Prochain rendez-vous avec l'actu locale, c'est lundi dans Curiosité. Très belle fin de soirée avec nous sur le 92 FM et à vendredi prochain.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et en podcast sur prune.net.
Écoute et télécharge les podcasts des émissions sur prune.net.